Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 27 mai 1400 du calendrier iranien, 19 octobre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Le terrorisme de Daesh vise à sommer la discorde religieuse en Afghanistan, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. La stratégie de l'Iran consiste à créer l'unité parmi les musulmans, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Les relations entre l'Iran et la Russie sont sur la voie de l'approfondissement, d'après le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Et Israël envisage de construire des colonies illégales dans le Golan occupé. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Dans un discours prononcé lors de la 35e conférence internationale sur l'unité islamique, le président iranien appelle les nations musulmanes à rester unies et à éviter les divisions. Le président Raisi a affirmé que la Palestine était la question urgente du monde musulman et ne devrait pas être reléguée en second plan. Le président iranien a estimé que la conférence en cours est une opportunité idéale pour promouvoir davantage le réveil islamique. M. Raisi a également exhorté le monde musulman à tenir tête aux groupes terroristes tels que Daesh. Il a noté que la corruption, la pauvreté et le terrorisme devraient être éradiqués du monde musulman. Le président Raisi a également appelé à une coopération scientifique, culturelle et médiatique plus étroite entre les nations islamiques. La 35e conférence internationale de l'unité islamique a débuté ce mardi à Téhéran avec le slogan de l'unité islamique, de la paix et de la prévention des conflits dans le monde musulman. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que son pays reviendrait à se conformer pleinement à ses obligations dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 si les autres signataires de l'accord honoraient leurs obligations. Hossein Amir Abdullahian a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le haut diplomate iranien a également qualifié de positive une récente rencontre entre le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et l'envoyé de l'Union européenne, Enrique Mora. Hossein Amir Abdullahian a déclaré que l'Iran poursuivrait les discussions avec le bloc des 27 à Bruxelles. le chef de la diplomatie étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a déclaré qu'il était prêt à discuter avec les représentants iraniens s'ils avaient besoin de clarifications avant de reprendre les pourparlers sur l'accord nucléaire de 2015 à Vienne. L'Iran et les autres signataires ont tenu 6 séries de pourparlers dans la capitale autrichienne depuis le mois d'avril pour rétablir le pacte multilatéral en difficulté. Le commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, s'exprimant à l'occasion d'une rencontre avec les attachés militaires de pays étrangers basés en Iran, a déclaré « L'Iran fera regretter tout aventurisme à son encontre, à quelque niveau que ce soit. » Le général Hajizadeh a noté que la région de l'Asie occidentale a été victime des interventions militaires destructrices, des guerres civiles, des régimes de sanctions et d'intimidation, et cela depuis maintenant 4 décennies. Il a ajouté « Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan avec l'aide de leurs alliés en 2001 et l'ont quitté après 20 ans, plongeant le pays dans une guerre civile et le chaos. Certes, les conspirations américaines ont déclenché des conflits internes en Afghanistan et cela se poursuivra. » Le chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran a déclaré que plusieurs questions étaient à l'ordre du jour de sa visite en Russie et que les pourparlers se déroulaient bien. Dans une interview accordée à la chaîne d'information Russia 24, le général de division Mohammad Barghiri a ajouté que dans la dimension bilatérale, l'Iran avait eu des entretiens très utiles sur certaines questions, notamment la mise en œuvre du contrat d'achat d'avions de combat, d'hélicoptères de combat, d'avions d'entraînement et des échanges d'expériences et d'entraînement des forces. Il a également déclaré que les relations entre la République islamique d'Iran et la Russie s'approfondissaient dans tous les domaines. À la tête d'une délégation militaire de haut rang, le général de division Mohammad Barghiri, chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran, est arrivé dimanche soir à Moscou à l'invitation officielle du général Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense. Pas de répit dans l'expansionnisme israélien. Le régime sioniste, poursuivant maintenant ses activités de colonisation illégale du côté occupé des hauteurs du Golan syrien. Le ministère israélien du logement a déclaré que les travaux avaient déjà commencé pour construire 7000 logements pour des colons sionistes dans la région. Il y a quelques jours à peine, le premier ministre du régime sioniste a parlé de plans pour doubler et éventuellement quadrupler le nombre de colons sur les hauteurs du Golan. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que les attaques de Daesh en Afghanistan visaient à semer la discorde religieuse dans le pays touché par la crise, exhortant l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à condamner de telles attaques. Lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général de l'OCI, Youssef Al-Outaimi, Amir Abdollahian a déclaré que les groupes extrémistes sont parmi les défis les plus importants auxquels la région est confrontée. Soulignant les actes de terrorisme de Daesh en Afghanistan, il a mis le poids de l'Iran derrière le rôle plus actif de l'OCI, en particulier de son secrétaire général, dans le traitement des problèmes persistants dans ce pays ravagé par la guerre. Il a souligné que le secrétaire général de l'OCI et les pays membres devraient condamner les mesures inhumaines de Daesh, y compris les récentes attaques terroristes et criminelles du groupe takfiriste contre deux mosquées des villes afghanes de Kunduz et de Kandahar. Plus de 60 personnes ont été tuées dans trois explosions consécutives qui ont frappé la mosquée Bibi Fatima pendant les prières du vendredi, l'une des plus grandes explosions à Kandahar. Il est suivi juste une semaine après qu'un attentat à la bombe a tué plus de 150 personnes et fait des dizaines d'autres blessés dans une mosquée chiite de la ville de Kunduz, dans le nord-est du pays. Les deux tragédies ont été revendiquées par une filiale locale du groupe terroriste takfiriste Daesh, qui a une longue histoire d'attaques contre la minorité chiite en Afghanistan. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dimanche que le terrorisme de Daesh cherchait à mener à bien une mission ratée poursuivie par les occupants occidentaux en Afghanistan, appelant les responsables afghans à utiliser les capacités nationales et à assurer la sécurité du pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également salué les efforts déployés par le secrétariat de l'OCI pour faciliter la réouverture de la mission de la République islamique d'Iran auprès de l'organisation dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah. Le secrétaire général de l'OCI, pour sa part, a décrit les mesures de l'organisation pour résoudre les problèmes en Afghanistan et a déclaré que le pays ne devrait pas devenir un refuge pour les groupes terroristes. Il a souligné l'importance de former un gouvernement inclusif en Afghanistan, de respecter les droits de l'homme, en particulier les droits des femmes, et de faire preuve de solidarité avec le peuple afghan. Il a souligné que l'OCI ne fait pas de discrimination entre les adeptes de l'islam et croit que tous les musulmans jouissent des mêmes droits de l'homme. Les musulmans et les fidèles de toutes les écoles ne devraient pas être la cible d'attaques terroristes, a déclaré le secrétaire général de l'OCI. Soulignant les récents pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite, il a exprimé l'espoir que ces négociations et contacts se poursuivront et aboutiront à des résultats positifs pour les deux pays. L'Irak a accueilli plusieurs séries de pourparlers directs entre les délégations iraniennes et saoudiennes depuis le mois d'avril, dans le but de ressusciter les relations rompues il y a 5 ans sur une multitude de questions. Les négociations ont été lancées sous l'ancien président iranien Hassan Rouhani et se sont poursuivies avec une vigueur renouvelée par le nouveau gouvernement dirigé par le président Ibrahim Raisi. S'exprimant lors de sa conférence de presse hebdomadaire lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que les pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite avaient progressé sur la base du respect mutuel. Il a déclaré que les deux parties ont discuté des questions bilatérales et régionales dans les pourparlers en cours. L'Iran a souligné ses préoccupations dans des termes sans ambiguïté.
Thank you. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans le débat d'aujourd'hui, il est question de Riyad qui demande la médiation de Téhéran pour empêcher la progression des Houthous au Yémen, une première, car jusqu'à présent, Riyad a tout fait pour ignorer le rôle très important et clé de la République islamique d'Iran dans la région. Alors, le sud de Marib est jusqu'ici sous le contrôle de la coalition Riyad, Washington et Londres est tombé. C'est une région clé, une province pétrolifère qui donc est sortie sous le contrôle de la coalition. Alors, jusqu'à présent, Ansar Allah a été capable de contrôler strictement par des radars la quasi-totalité du Yémen et n'arrête pas de faire tomber des drones de la coalition et même a détruit un F-15 dont le pilote a été capturé selon des informations. Des experts de questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui, tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
C'est une première au terme d'une série de chasses aux drones US spectaculaires dans le ciel de Marib, signe que la libération de cette province pétrolifère, qui abritait jusqu'ici le QG Riyad Washington Londres, est définitivement entrée dans sa phase finale. Quelques heures après la reprise par Ansar Allah d'Al-Abdiya, ce district du sud de Marib, et ce en dépit de 40 frappes aériennes, en l'espace d'à peine quelques heures, un avion de la coalition, visiblement un F-15, a été abattu par la DCA de la résistance, signe que le ciel de Marib, le théâtre cet été de l'interception et la destruction de moins une douzaine de drones US de type Global Hawk ou encore Scan Eagle, est placé désormais sous le contrôle strict des radars de la résistance ainsi que de leurs missiles intercepteurs, de type de l'avion et de la DCA qui a visé l'appareil. On ne sait rien encore, mais le pilote a été capturé vivant. L'info a été annoncée par le vice-gouverneur d'Al-Baïda, Nasser Al-Wabani, ce vendredi sur son compte Twitter, où il dit qu'il s'agit d'un avion de chasse qui avait été abattu au-dessus de la zone d'Al-Abdiya, ce qui suppose que la résistance l'a abattu en pleine opération de progression dans la zone. Au fait, les missiles 358 d'Ansar Allah, ce type de drone DCA, sont désormais pleinement actifs dans le ciel de Marib, la destruction d'un F-15 signifiant de son côté que la bulle de la défense aérienne s'étend encore davantage. Des images de ce gain militaire majeur ont fait surface dès le vendredi soir sur les réseaux sociaux qui montrent les combattants d'Ansar Allah déployés dans le centre du quartier d'Abdiya. Signe des temps, parallèlement à la publication de ces photos, des images ont mis en scène la désertion en masse des forces saoudiennes dans le sud de Marib. Des dépanneuses et du matériel militaire ont été transportés de Marib à destination de la région d'Al-Wadiya, située entre les provinces d'Hadramaout et d'Al-Jawf, limitrophes de l'Arabie saoudite. Mais quelle importance stratégique pour ce gain ? La reprise de Rabat et d'Al-Abdiya, soit deux localités du sud de Marib, réside dans le fait qu'elles se placent dans le triangle Marib, Al-Baïda, Shaaba, et que leur reprise permet une totale maîtrise sur trois fronts du sud, du nord et du nord-ouest de Marib, soit un encerclement total.
Vous regardez l'émission Le Débat depuis Téhéran. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau nos deux experts des questions internationales, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue de Bruxelles de Publique, et bonjour à tous vos téléspectateurs.
Un plaisir de vous recevoir, Luc Michel. Un grand bonjour à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui nous joint avec depuis Paris. Bonjour, M. Hugon.
Allô?
Ah, excusez-moi, M. Pierre Dortiguier est avec nous depuis... Oui, M. Dortiguier, bonjour. Vous êtes géopoliticien et politologue depuis Toulouse. Merci d'être avec nous, Pierre Dortiguier.
Oui, en effet, j'étais M. Philippe Hugon, n'est pas disponible maintenant. Et je suis très, très heureux, bien sûr, de participer au débat et de retrouver M. Luc Michel.
C'est un débat qui est prometteur, car il s'agit du Yémen. Ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. Alors, la coalition Riyad, Washington et Londres a perdu la quasi-totalité du contrôle de la région du sud de Marib, une province pétrolifère extrêmement importante pour la coalition. Que dites-vous?
La guerre du Yémen, elle est en train de mal tourner, les alliés occidentaux. Cette guerre qui est la seconde guerre du Grand-Orient après la Syrie, et puis comme la Syrie est issue de l'échec du soi-disant printemps arabe, elle voit vraiment le naufrage de toutes les ambitions saoudiennes. De plus en plus, donc, depuis que ce soit Sarala qui a pris le contrôle des opérations, la défaite des Saoudiens se produit. La prise de contrôle de Marib, elle est très importante, puisque c'est la maîtrise du pétrole yéménite qui est en cause et qui va être perdue par les Saoudiens. De plus, la zone est stratégique et elle prépare une coordination parfaite de forces de Sarala. On voit que ce qu'on appelle la guérison des forces iraniennes au Yémen est exactement comme ça se passe dans d'autres pays. En Iran particulièrement, on voit que c'est un succès et c'est un succès qui fait reculer l'adversaire.
Oui. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Pierre Dortillier. Qu'en dites-vous, M. Dortillier?
Oui, en effet, je reprends la conclusion de M. Michel, qu'il s'agit là, évidemment, d'un succès, qui fait reculer, un succès stratégique qui fait reculer l'adversaire. Il faut voir maintenant quel est le camp de l'adversaire. C'est-à-dire, vous avez d'abord, dans ce qu'on pourrait appeler les clients de l'Arabie Saoudite, ou qui se reposent sur elle, dans le Yémen, vous avez des clans qui sont très, très opposés les uns aux autres, qui ne peuvent s'unir. Et d'autre part, il y a aussi, je crois que c'est un des points importants de notre débat, une attitude différente, certainement des États-Unis, envers l'Arabie Saoudite. Cette attitude différente a été se manifestera certainement par, non pas une... à l'achat d'Arabie Saoudite, qui est toujours cette colonie américaine depuis le début, mais certainement un manque d'approvisionnement militaire et autres. Je ne crois pas que les Américains aient intérêt, avec la politique de Biden, qui suit en un certain sens la politique de Trump, ont intérêt à s'investir dans une guerre. Je crois même qu'ils pourraient aboutir, à mon avis, une carte à jouer, qui est une carte malheureuse, bien sûr, c'est la division du Yémen. Je crois que ces succès sont une chose, les succès de la résistance d'Ansarallah sont une chose, en effet, une chose qui est remarquable, mais en même temps, disons que si les Américains et leurs alliés saoudiens sont vaincus sur le terrain militaire, ou affaiblis considérablement par l'attaque des drones, de leurs drones, etc., je veux dire, attaques dirigées contre leurs drones, tout ça par la DCA et la chute de cet avion-là de F-15 est tout à fait significatif à cet égard, ils peuvent jouer aussi une carte politique. Une carte politique qui est un peu ignoble, bien sûr, mais qui consiste à maintenir, diviser le Yémen. Je crois que ces plans échoueront, mais à mon avis, nous pouvons nous attendre à la transformation de cette guerre, c'est-à-dire, disons, à ce qu'elle soit véritablement une guérilla, que l'Arabie Saoudite investisse moins dans le soutien de ses clients et que, disons, que la guerre se prolonge. C'est cela, à mon avis, qui est grave pour ce pays qui, on dit chez nous dans la presse, qu'une personne sur 8 est déplacée, qu'il s'agit là d'une situation catastrophique. Est-ce qu'il peut y avoir une solution militaire rapide? Disons qu'il le faudrait, mais je ne pense pas que cela soit le cas. Les négociations de l'Arabie Saoudite avec la République islamique d'Iran sont une chose qui, à mon avis, doivent influencer aussi la politique de l'Arabie Saoudite et reconsidérer, disons, ce qu'elle peut de sa politique traditionnelle envers le Yémen. Je crois aussi que ces négociations sont possibles à cause de la résistance yéménite. Mais d'autre part, il faut bien tenir compte aussi de la politique américaine, c'est-à-dire de peut-être un renouveau de la stratégie américaine, une adaptation peut-être à la concurrence qu'elle a avec ses, c'est la Russie et la Chine. Et aussi, je dois dire que, c'est tout à fait une opinion subjective, bien sûr. Je pense que les États-Unis ne s'engageront pas à fond pour soutenir justement l'Arabie Saoudite. Je crois que sans se retirer, ils diminueront leur présence au profit de la continuation, disons, d'une sorte de guérilla qui épuisera le Yémen. C'est une attitude lâche,
d'accord, bien sûr,
mais je crois qu'elle est envisagée.
Tout à fait. Luc Michel, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Rebonjour. Notre liaison a été coupée. Alors, Pierre d'Ortiguier pense que la coalition, la soi-disant coalition Riyad-Washington-Londres, cherche à tout prix de diviser complètement le pays. Alors, comment va profiter cette division à la coalition ?
Écoutez, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a tout d'abord ce qu'on peut appeler une guerre stratégique du côté des Saoudiens. Mais également, il faut prendre en compte que les gens qui ont tiré les barreaux du feu de la guerre du Yémen, ce sont les Émiratis. Les Émiratis, qui étaient des alliés secondaires des Saoudiens, ont émergé de la guerre du Yémen comme une grande puissance maritime ultra-socratique. Cette puissance rayonne depuis les gens de Saoudie. Et surtout, quand même, lui, elle est alliée à la puissance maritime française. Il se cause aujourd'hui une politique d'occupation par la guerre des ports du Sud-Yémen, dans lequel ils ont réalisé les avantages de la possession du Sud-Yémen, comme il existait dans les années 60, mais que normalement est présente dans les ports de la Somalie, du plus grand de la Somalie, où elle capte la partie moyenne financière. C'est cela qu'il faut retenir. L'agenda stratégique des États-Unis, il est différent, évidemment, de celui des Saoudiens. Le Yémen n'a pas seulement à prendre avec les Saoudiens et les Américains, mais également ce qu'on peut appeler la stratégie d'alliance émiratique. Il faut aussi savoir qu'en Libye, les Émiratis ne sont pas du côté américain, puisqu'ils soutiennent Haftar et le Calentico.
Oui. Pierre d'Ortiguier, j'espère que vous avez pu entendre ce que...
C'est très précieux ce qu'a dit M. Michel, comme toujours, mais vraiment très précieux. Malheureusement, je ne l'ai pas très bien entendu à cause de la... à cause du son.
Oui, mais, Pierre d'Ortiguier, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de Riyad, qui, c'est une première, a demandé à Téhéran de jouer un rôle de médiateur pour... arrêter la progression des outils. Que pensez-vous?
Oui, c'est tout à fait compréhensible de la part de Riyad. Mais Riyad sait très bien que, en effet, elle peut penser l'obtenir. Mais ce n'est pas réaliste. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, derrière ce langage, disons, cette négociation, disons, qui n'est qu'un point de départ, se cache, il faut voir la finalité, le but. Le but, c'est que ce que cherche l'Arabie Saoudite, ce qu'elle peut espérer, c'est une modification du conflit, et non pas un arrêt du conflit. Elle peut, disons, modifier, elle veut modifier, disons, la résistance qui lui est faite au Yémen, elle veut l'adoucir. Elle pense que l'intervention de l'Iran va dans ce sens. Mais quand même, l'Arabie Saoudite est réaliste, et ses conseillers américains aussi. Ils savent très bien que ça ne peut pas être obtenu de cette façon. C'est une négociation. Il faut voir la direction, non pas des arguments d'une négociation, des arguments de départ, mais il faut voir l'orientation que veulent justement lui donner les Saoudiens et les Américains. Je crois que ils espèrent évidemment que la République islamique d'Iran ne soutiendra, diminuera son soutien, oui, mais ne peut pas non plus, ils savent très bien que politiquement et de d'autres manières, ils ont affaire quand même à une résistance, à une opposition très forte, très armée, très aguerrie au Yémen, dont votre exposition, justement tout à l'heure, là, a marqué les traits, bien sûr. Donc, je crois qu'ils veulent orienter cette guerre. Ils ne veulent pas terminer cette guerre par une capitulation ou autre, mais ils ont les seuls outils qu'ils ont entre les mains. Ce ne sont pas des outils militaires, à part, contrairement aux apparences. Ce sont des outils politiques. Ils jouent sur la division, ils jouent sur les rivalités. Ils ont l'idée que cette cette guerre est une guerre perpétuelle. Vous savez, moi-même, j'ai eu l'occasion de dire, disons que je me souviens de mon enfance aussi, de mon adolescence, disons, de cette guerre que je suivais avec intervention égyptienne, je me rappelle, entre le Sud-Yémen et le Nord-Yémen. Et la place que prenait, qu'occupait à cette époque-là, dans le conflit l'Arabie Saoudite. C'est donc une guerre, en fait, ce qu'ils veulent empêcher, je crois, c'est la formation d'une, je parle du clan américano-saoudien, la formation d'un Yémen qui puisse jouer un rôle économique important dans la région. Et surtout, en fonction des... c'est quand même pas si éloigné que cela, en fonction des transformations de l'Asie, des transformations en particulier de l'économie, du poids que fait peser l'économie chinoise. Je crois que les Américains, je sais bien que ça paraîtra éloigné à beaucoup d'auditeurs, mais les Américains sont préoccupés, nous l'avons vu par les événements qu'ils ont touchés en France, là, avec l'affaire des sous-marins, sont très occupés de cette affaire d'Asie, de cette affaire du containment, comme on dit, de la puissance chinoise. Et donc, je crois que ce qui se passe, les changements des marques que les Américains veulent imposer, y compris envers leurs alliés, voyez-vous, et les négociations qu'ils peuvent avoir avec la République islamique d'Iran, sont évidemment fonction de ce souci américain également, qui à mon avis devrait, entre guillemets bien sûr, lâcher le Proche-Orient. Je crois que la nouvelle politique israélienne semble suivre la politique américaine, je le dis, et que tous les soucis américains sont justement dans cette zone du Pacifique. Je ne dis pas qu'ils ne s'occupent que de cela.
D'accord.
Mais ils ne peuvent pas, disons, intervenir sur deux plans différents. Ils sont obligés, peut-on dire, de faire des concessions. Et que la lutte des du mouvement Ansarallah, bénéficie quand même de cette nouvelle politique américaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent tirer des avantages d'une résistance armée de plus en plus,
tout à fait, d'accord.
Affermie. Voilà. Il faut voir l'articulation des deux plans politiques et du plan, disons, purement militaire.
Oui. Luc Michel, alors Pierre Dortigui a parlé tout à l'heure de la modification de la guerre au Yémen. Est-ce que cette modification est due à l'avancée donc, de forces de la résistance d'Ansarallah qui ne cesse d'accumuler des succès en détruisant des drones et même récemment un F-15 dont le pilote a été capturé?
C'est le nouveau succès de la guerre hybride telle qu'elle est pratiquée par les Iraniens dans tout le Proche-Orient. Tant que la guerre du Yémen a été une guerre classique qui opposait des forces militaires à des forces militaires qu'on peut qualifier de paralytatiques au Yémen, évidemment, la différence de poids économique, financier, militaire des Occidentaux et des Saoudiens ne permettait pas la victoire. Depuis que la guerre asymétrique est menée, la guerre hybride, c'est-à-dire avec un acteur non étatique qui est Ansarallah, qui est l'équivalent yéménite du Hezbollah, évidemment, c'est une guerre multidimensionnelle qui prend de vitesse les Occidentaux. Mais moi, je ne partage pas l'optimisme du professeur Bortigny sur le retrait américain. Au contraire, contrairement à Donald Trump, Biden est prêt à passer à l'agression militaire contre l'Iran. Et ça va avoir des répercussions au Yémen. Il y a eu la visite de Nathalie Bennett, le premier ministre israélien aux États-Unis. Et ensuite, il y a eu la visite de Lapid, le ministre des Affaires étrangères, qui a rencontré Blinken il y a quelques jours. Les Américains ont précisé que toutes les options étaient sur la table concernant la reprise des négociations de Genève. Par toutes les options, ils entendent également l'inclusion de l'option militaire, c'est-à-dire des frappes sur l'Iran. C'est assez inquiétant et on veut craindre que, justement, pour se débarrasser du problème proche-oriental, les Américains ne débouchent sur une politique de tout en avant. Cette nouvelle administration Biden-Kamala Harris, elle est beaucoup plus dangereuse que la précédente. C'est les mêmes dossiers, les mêmes alliances, mais ce sont des gens, ils l'ont démontré dans le passé. N'oubliez pas que les démocrates, ce sont les gens qui ont fait l'agression contre la Somalie libyenne, contre la Syrie, qui ont démultiplié les agressions. Ce sont des gens qui ne reculent pas devant la guerre.
Oui. Pierre Dortiguier, votre réaction, je vous prie. Est-ce que la politique de Biden est plus dangereuse que celle de Trump?
Oui, je reconnais en effet que s'il y a une adaptation de la stratégie de M. Biden et de son groupe, justement, démocrate que vient de désigner M. Michel, il est certain que, politiquement, disons, enfin, les intentions, si j'ai pu dire, de politique de ce groupe de Biden sont beaucoup plus dangereuses que celles de l'administration précédente. En effet, ils sont bien tout à fait dévoués aux intérêts sionistes, bien sûr, beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus, disons, hypocrites. C'est-à-dire que ils peuvent, à la fois quand ils se retirent quelque part, comme ils ont fait de l'Afghanistan, par exemple, c'est pour y laisser, si je puis dire, des pièges. Et leur hostilité, et M. Michel a raison, ça, là-dessus, ça a été toujours ma conviction, le camp démocrate, disons, aux États-Unis, pour être clair, est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus agressif que ne peut l'être le clan républicain. Ça, disons, je fais la distinction démocrate-républicain, qu'on peut quand même faire, qui est superficielle, disons, mais elle répond quand même à une réalité. Et donc, il faut se méfier. C'est-à-dire qu'il y a des concessions, à mon avis, à court terme, de la part de l'administration Biden. Mais cela n'empêche qu'il y a toujours une visée offensive à long terme. Et je reconnais, en effet, sur le plan, je vais dire subjectivement, de façon de dire, mais que c'est une administration dont il faut se méfier. Bien sûr, elle est plus agressive, mais elle est aussi plus rusée, voyez-vous. Et donc, à ce sens, elle est à craindre. Mais en même temps, disons, elle montre qu'elle doit montrer quand même certaines faiblesses. Et le propre d'une résistance, vous savez, c'est comme on dit, c'est-à-dire de tenir bon. Donc il faut que ceux qui négocient avec les Américains, ceux qui négocient, quand on négocie avec l'Arabie Saoudite, il faut comprendre qu'effectivement, il y a ce noyau des États-Unis, ce noyau démocrate, il faut le dire, avec ou sans guillemets, qui est effectivement très dangereux, et à court terme, et surtout à long terme. Mais il est possible que dans le court terme, il y ait en effet, disons, des accommodements possibles, mais ceci ne supprime pas, en tout cas, même les succès militaires, disons, dont nous parlons, dans ce cas-là, ne supprime pas l'agressivité et les projets d'agression, bien sûr, qui sont, comme on dit, vieux comme ce système américain, qui, vous savez, avec les démocrates, justement, avec Roosevelt, a donc, mis dans son camp l'Arabie Saoudite et a pris, disons, le Proche-Orient pour son propre territoire, voyez-vous, voilà, pour un territoire d'exploitation.
Luc Michel, Ansar Allah tient bon, n'est-ce pas?
Ansar Allah tient bon, et là, la seule stratégie possible. Il faut savoir qu'il faut une pression maximale sur le maillon faible de la coalition occidentale. Le maillon faible, ce ne sont pas les États-Unis, ce ne sont pas les Émiratis avec leur alliance avec Paris. Le maillon faible, ce sont les Saoudiens. Les Saoudiens se rendent compte, comme on disait en France au XVIIe siècle, qu'ils ont travaillé pour le roi Prusse au Yémen, pour leur rivaux Émiratis. Et donc, il faut continuer à mettre la pression. C'est là-bas que l'espoir est à attendre.
Oui, tout à fait. Eh bien, Luc Michel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes géopoliticien depuis Bruxelles. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Pierre Dourtiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir donc répondu à nos questions de l'émission Le Débat. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Plus de 70% d'Iraniens ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 a annoncé le président iranien Ebrahim Raisi lundi 18 octobre dans une intervention télévisée. Le président Raisi, qui s'exprimait dans un discours en direct à la nation ce lundi soir, a félicité les musulmans du monde à l'occasion de l'anniversaire du grand prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, date qui marque également le début de la semaine de l'unité intermusulmane au sein de l'Oumma islamique. Soulignant que la vaccination contre le COVID-19 était la priorité la plus importante pour son gouvernement depuis son entrée en fonction il y a 3 mois. Il a déclaré que son gouvernement travaillait avec véhémence sur la question et sa campagne de vaccination a déjà offert une protection massive contre le virus. Il a pourtant appelé les Iraniens à respecter tous les protocoles sanitaires nécessaires pour contrer la propagation du virus mortel. S'agissant de ses décisions sur les négociations nucléaires et de la levée des sanctions, le président Raisi a déclaré « Nous suivrons les négociations, mais ne lierons jamais les moyens de subsistance des citoyens et le marché au pourparlers nucléaire. » Il a poursuivi « Nous ne prenons pas au sérieux que les négociations axées sur les résultats tangibles. Nous devons voir un signe montrant le sérieux de la partie d'en face pour la levée des sanctions. Quant à ces sanctions oppressives, elles doivent être absolument levées. Nous avons dit que lorsque le gouvernement sera mis en place, le travail sera poursuivi à cet effet. Les efforts se poursuivent aujourd'hui par le biais du ministère des Affaires étrangères, a-t-il souligné. Et d'ajouter, nous sommes attachés à ce que nous avons dit et nous sommes sérieux. On s'attend à ce que l'autre partie soit aussi décidée et sérieuse, a-t-il de préciser. Évoquant les récents pourparlers avec les représentants de l'Union européenne tenus il y a quelques jours à Téhéran, le président Raisi a souligné, nous avons clairement indiqué que la République islamique est sérieuse et qu'elle souhaite voir la même sincérité chez la partie d'en face. Plus loin dans ce propos, le président Raisi s'est félicité de la récente adhésion officielle de l'Iran en tant que membre permanent à l'Organisation de coopération de Shanghai pour dire que cela faciliterait les connexions de l'Iran avec d'autres économies régionales. L'Iran et le Venezuela signeront un document de coopération de 20 ans. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a annoncé la visite du président vénézuélien à Téhéran dans les prochains mois et a déclaré « Les ministres des Affaires étrangères d'Iran et du Venezuela signeront un document de coopération de 20 ans au Téhéran-Caracas en présence des présidents des deux pays. » Hossein Amir Abdollahian a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue vénézuélien Félix Ramón Plasencia González. Dans les mois à venir, nous aurons le président Maduro en visite à Téhéran au cours de cette visite et lors de la rencontre entre les présidents des deux pays, un document de 20 ans de coopération entre Téhéran et Caracas sera signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et cela confirme que les relations irano-vénézuéliennes sont sur une voie croissante. Nous avons eu de bons accords entre les deux pays ces dernières années dans les domaines techniques, économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques, l'exploitation minière, l'énergie et des parties importantes de ces accords sont en cours de mise en œuvre, a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. La République islamique d'Iran soutient le peuple, le président et toutes les institutions juridiques du Venezuela. Nous considérons l'arrestation des diplomates vénézuéliens en Caper et leur extradition vers les États-Unis comme un acte répréhensible et non constructif de la part des États-Unis et une attaque contre la souveraineté du Venezuela, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Dans le domaine de la coopération bilatérale, nous sommes sur une voie où les produits des Iraniens sont disponibles pour les habitants de différentes villes du Venezuela. C'est une bonne occasion pour les hommes d'affaires et hommes d'affaires iraniens et vénézuéliens d'utiliser cette opportunité dans le cadre de la coopération commerciale entre les deux pays, a-t-il souligné encore. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, s'est adressé aux Libanais dans un discours télévisé. Il s'est adressé aux Libanais, notamment, aux chrétiens, en disant « Présenter le Hezbollah comme étant un ennemi est une illusion. Vous pouvez interroger les régions chrétiennes en Syrie, comment le Hezbollah agit pour protéger les chrétiens. Après le retrait israélien du Liban au sud, nous avons interdit l'entrée de tout combattant armé du Hezbollah et d'Amal aux régions chrétiennes. Ce que nous avons fait en 2000 est une trajectoire correcte. Nous n'avons pas même attaqué les agents israéliens qui nous ont torturés et tués. Les forces libanaises sont la plus grande menace pour l'existence et la sécurité chrétienne au Liban. Le programme réel des FL est la guerre civile qui aboutira à un changement démographique. Le projet de FL est d'établir des cantons est toujours en cours. Les FL et leur chef étaient les premiers opposants à l'entente entre le courant patriotique libre et le Hezbollah. D'autre part, nous avons salué l'entente entre le CPL et le FL à Marab car nous soutenons le dialogue. C'est Hassan Nasrallah a mis en garde qu'une bataille, une guerre éclatée dans toute région où entrer les FL, conseillant le parti des FL et son chef de renoncer à la guerre intérieure et appelant tout le monde à faire le même. L'État et les Libanais doivent faire face à ce boucher criminel afin d'éviter une guerre civile, a averti Hassan Nasrallah. S'adressant au chef des FL, Hassan Nasrallah a déclaré « Votre déclaration selon laquelle le Hezbollah est plus faible que l'Organisation de la Libération de la Palestine est une grande faute. Sachez que la branche militaire du Hezbollah comprend 100 000 combattants. Nous n'avons pas formé ces combattants pour mener une guerre civile, mais pour défendre notre pays face aux ennemis. Nos calculs sont vrais et nous avons des valeurs et des principes. Ne faites pas de faux calculs, soyez calmes et tirez les leçons de nos guerres et des vôtres. Hâte de prévenir encore Seyyid Hassan Nasrallah. Le leader du mouvement yéménite Ansar Allah, Abdel Malek al-Houssi, a réitéré que le Yémen fait partie de l'équation historique annoncée par le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyid Hassan Nasrallah, selon laquelle toute menace à la ville sainte d'Al-Quds aboutira à une guerre régionale. Dans son discours à l'occasion de la célébration de la naissance du noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, ce lundi 18 octobre est fêté en grande pompe avec la participation de centaines de milliers de Yéménites dans plusieurs villes dont Sanaa, Saada et autres. Al-Houssi a déclaré « La position de principe et religieuse du peuple yéménite est invariable en ce qui concerne les problèmes de l'Oumma dont en tête le soutien au peuple palestinien à l'accès du djihad et de la résistance. J'appelle le cher peuple yéménite à poursuivre ses efforts pour faire face à la brutale agression américano-saoudienne. Nous sommes légalement obligés de faire face à l'agression avec fermeté jusqu'à la levée du siège, la fin de l'agression et de l'occupation et le règlement des dossiers de guerre », a-t-il souligné encore. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.